Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 15 janvier 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Exportation pétrolière et non pétrolière de l'Iran, forte augmentation malgré les sanctions. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, Téhéran et Damas sont convenus de préparer un accord de coopération à long terme et de le concrétiser dans un proche avenir. Téhéran exhorte Washington à extrader vers l'Iran les personnes accusées d'avoir tué le général Soleimani. Et puis l'Iran exige que Washington soit tenu responsable de l'horrible meurtre de l'enseignant noir Anderson. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Damas étaient convenus de préparer un accord de coopération à long terme et de le mettre en œuvre dans un avenir proche. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques dans un communiqué conjoint avec son homologue syrien Faisal Mekdad à la suite de leur rencontre à Damas. Il a déclaré que les deux parties avaient exploré les moyens d'approfondir les relations économiques et commerciales. Amir Abdollahian a également évoqué les récents contacts diplomatiques entre la Syrie et la Turquie. Il a déclaré que Téhéran essayait depuis longtemps d'aider à régler les problèmes entre Damas et Ankara et qu'il était enthousiasmé par les résultats. L'autre haut diplomate syrien, Faisal Mekdad, a pour sa part déclaré que les relations entre Téhéran et Damas se situaient à un niveau stratégique et que les deux pays s'efforçaient désormais de relever les obstacles en faveur d'une coopération économique plus étroite. Le chef de la diplomatie syrien a ajouté que la normalisation avec la Turquie dépendait de la fin de son occupation militaire de certaines parties du pays arabe. Mekdad a noté que la Syrie n'oubliera jamais les maux et les dégâts causés par les attaques israéliennes contre la Syrie, insistant sur le fait que le pays donnera une réponse écrasante aux frappes en temps voulu. Le ministre iranien est arrivé à Damas samedi dans la journée, après une visite de 2 jours au Liban où il s'est entretenu avec les hautes autorités du pays. Sachez également que le président Raïsi se rendra bientôt en Syrie lors d'une réunion avec le ministre syrien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian a annoncé qu'à la suite de l'invitation officielle du président Assad, le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïsi, se rend bientôt en Syrie. Compte tenu des capacités économiques de l'Iran et de la Syrie, le prochain voyage du président Raïsi en Syrie sera l'occasion de renforcer la coopération entre les secteurs privés et publics des deux pays dans les domaines économiques et commerciaux communs, a conclu le très haut diplomate. les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs en assassinant mon père, déclaration de la fille du général martyr Rossem Soleimani. La fille du défunt lieutenant général iranien Rossem Soleimani a déclaré que les États-Unis n'avaient pas réussi à atteindre leurs objectifs en assassinant son père. Zainab Soleimani a déclaré que la première défaite des États-Unis était les glorieuses cérémonies funéraires organisées pour le général en Irak et en Iran. Elle a déclaré que les Américains n'avaient jamais imaginé que le nom de Soleimani se démarquait comme une étoile brillante après son assassinat. Zainab Soleimani a fait ses remarques lors d'une interview avec le programme Insight de Presse TV. Le général Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, et son compagnon de tranchée, l'Irakien Abu Mahdi al-Muhandis, commandant adjoint des unités de mobilisation populaire de l'Irak Hashd al-Sha'bi, ont été tués en martyr avec leurs compagnons de lutte dans une frappe de drone américain le 3 janvier 2020 près de l'aéroport international de Bagdad. Un attentat commandité par le président de l'époque, Donald Trump, les deux défunts martyrs commandants étaient extrêmement respectés et admirés dans toute la région pour leur rôle déterminant dans la lutte et la décimation du groupe terroriste Daesh, en particulier en Irak et en Syrie. À l'époque, un rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires avait condamné la frappe comme une violation du droit international. L'Iran a qualifié l'assassinat du général de terrorisme d'État et s'est engagé à se venger des cerveaux et des auteurs de l'attaque par drone en temps voulu. Sachez également que Téhéran exhorte Washington à extrader vers l'Iran les personnes accusées d'avoir tué le général Soleimani. Abbas Ali Khatrodaï, président du comité spécial d'enquête juridique et internationale sur l'assassinat du général Soleimani, a appelé les États-Unis à extrader vers l'Iran les personnes accusées d'avoir tué l'ancien commandant de l'unité Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. Selon la Convention de 1973, les États-Unis sont tenus de remplir deux obligations importantes. Les personnes accusées d'avoir tué des fonctionnaires ou des personnes protégées par la Convention doivent être jugées ou extradées vers le pays touché, a écrit Khatrodaï sur sa page Twitter. Lequel de ces engagements pensez-vous que le régime américain remplira envers l'Iran en tant que membre de la Convention, s'interroge également Khatrodaï. L'exécution d'un espion des services secrets britanniques, l'Iran met en garde Londres sur ses tentatives visant les intérêts et la sécurité nationaux de la République islamique d'Iran. Un ressortissant iranien, détenteur d'un passeport britannique, a été exécuté pour espionnage pour le compte du gouvernement britannique et ses actions de grande envergure contre la sécurité nationale de l'Iran. Alireza Akbari a été condamné à mort plus de 2 ans après son arrestation. Selon une décision de justice, Akbari a commencé à travailler avec l'agence d'espionnage britannique MI6 sous le couvert d'activités de recherche et de commerce. Il a eu de nombreuses réunions avec des agents britanniques dans différents pays. Sur une longue période, il a transmis des renseignements sur des questions clés, notamment la politique intérieure et étrangère de l'Iran, ainsi que les programmes de missiles de défense. Akbari a également donné au Royaume-Uni des informations sur l'éminent savant nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh qui a été tué en novembre 2020. La Grande-Bretagne a réagi à l'exécution affirmant qu'elle retirerait temporairement son ambassadeur de Téhéran, entre autres mesures. Le ministre britannique des Affaires étrangères a d'autre part déclaré samedi que la Grande-Bretagne avait imposé des sanctions au procureur général iranien après l'exécution du ressortissant anglo-iranien. Pour sa part, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur britannique à Téhéran, Simon Shercliffe, en réaction aux interventions non conventionnelles du Royaume-Uni dans les affaires intérieures de l'Iran, en ciblant la sécurité nationale de l'Iran. Lors de cette réunion, le directeur général du département Europe de l'Ouest a transmis les vives protestations de l'Iran au gouvernement britannique contre les récents actes de sabotage. Le procès d'Akbari s'est déroulé en présence de son avocat et la condamnation à mort a été prononcée sur la base de preuves étayées. Le ministre iranien des renseignements, dans un communiqué publié mercredi après-midi, a fourni de plus amples détails sur Akbari et son arrestation. L'Iran exige que Washington soit tenu responsable de l'horrible meurtre de l'enseignant noir Anderson. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a critiqué samedi la police américaine pour le meurtre brutal d'un enseignant noir américain. En réaction au meurtre odieux de l'enseignant noir américain aux États-Unis, Kanani a déclaré que regarder des images de l'acte violent et brutal de la police américaine en tuant Anderson, l'enseignant noir américain, rappelle le meurtre barbare de George Floyd, ajoutant que de telles actions odieuses démontrent la poursuite du racisme de la police américaine contre les Noirs du pays qui choque une fois de plus le monde entier. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Exportation pétrolière et non pétrolière de l'Iran, forte augmentation malgré les sanctions. L'Iran connaît une forte augmentation de ses exportations de pétrole alors que le gouvernement intensifie les initiatives visant à annuler les sanctions américaines. Selon les entreprises qui suivent les flux, les exportations de pétrole iranien ont atteint de nouveaux sommets au cours des deux derniers mois de 2022 et ont également pris un bon départ pour 2023. Les entreprises affirment que les exportations de brut en décembre se sont élevées en moyenne à plus de 1,1 million de barils par jour. La Chine est le premier client de l'Iran. L'ancienne administration américaine dirigée par Donald Trump avait cherché à anéantir complètement les exportations de pétrole de l'Iran en se retirant de l'accord multilatéral de 2015, connu sous le nom du plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, PGAC, et en réimposant des sanctions unilatérales contre le pays. L'administration américaine actuelle affirme également qu'elle applique vigoureusement les sanctions et a même imposé de nouvelles interdictions. L'Iran a également signalé récemment une augmentation de près de 20% en glissement annuel de ses exportations non pétrolières. Le Centre européen des statistiques Eurostat a annoncé que le commerce total entre l'Iran et les 27 membres de l'Union européenne au cours des 11 premiers mois de 2022 était de 4,715 milliards d'euros. Les échanges commerciaux entre l'Iran et l'Union européenne au cours des mois de janvier à novembre 2022 ont augmenté de 22% par rapport à la même période l'an dernier. Au 11e mois de 2021, l'échange total entre les deux parties se fixait à 3,86 milliards d'euros. Les importations de l'Union européenne en provenance d'Iran au cours des 11 premiers mois de 2022 ont également augmenté de 20% et ont atteint 976 millions d'euros. En 2021, au cours de la même période, l'Union européenne avait eu importé 812 millions d'euros de marchandises en provenance d'Iran. Malgré les sanctions anti-iraniennes, les échanges commerciaux des pays européens avec l'Iran ont connu une croissance considérable en 2022.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. En effet, le 11 janvier dernier, donc il y a 3 jours, lors d'un entretien, Emmanuel Macron a annoncé, a estimé qu'il n'a pas à demander des pardons à l'Algérie et que ce n'était pas la question principale dans la relation entre les deux pays. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron a oublié les années, voire les décennies de colonisation française en Algérie, mais également les crimes commis par cette même France en Algérie, mais également dans beaucoup de pays africains, mais non seulement en Afrique, à travers le monde entier, à savoir au Moyen-Orient, comme par exemple en Syrie? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Nous allons analyser cette prise de position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. Mais juste avant de vous présenter nos deux invités, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues. On revient tout de suite après.
Dans une interview à l'hebdomadaire français Le Point, publié mercredi 11 janvier au soir, le président français Emmanuel Macron a estimé qu'il n'avait pas à demander pardon à l'Algérie pour la colonisation. Il a par ailleurs dit espérer accueillir son homologue Abdelmadjid Tebboune en France en 2023 pour poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays. Dans une interview récemment accordée au Figaro, Abdelmadjid Tebboune a dit que les relations entre la France et l'Algérie ont besoin pour s'apaiser que la France se libère de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé, soulignant que le regard envers l'Algérie doit changer, car le pays est très différent de ce qu'il était en 1962. Et voici que Macron refuse de s'excuser pour les atrocités commises par les forces françaises pendant les 132 ans de leur présence en Algérie coloniale de 1830 à 1962. « Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet. Le mot romprait tous les liens », explique-t-il dans un long entretien avec l'écrivain algérien Kamel Daoud, publié par l'hebdomadaire français Le Point. Le pire serait de conclure « On s'excuse et chacun reprend son chemin », juge-t-il. J'espère d'ailleurs que le président Tebboune pourra venir en 2023 en France, relève également Emmanuel Macron, afin de poursuivre un travail d'amitié inédit, après la visite que lui-même a effectuée en Algérie en août 2022. En janvier 2021, Macron a refusé de présenter ses excuses aux Algériens pour la colonisation française, affirmant qu'il participerait plutôt à des actes symboliques visant à promouvoir la réconciliation. La nation africaine a été pillée par les colonisateurs français pour ses riches ressources naturelles. Alors que les historiens français affirment que seulement 500 000 de civils et de combattants sont morts pendant la sanglante guerre d'indépendance de l'Algérie de 1954 à 1962, les autorités algériennes affirment que plus d'1,5 million d'Algériens ont été tués par les forces françaises au cours de cette période. Lors de sa campagne présidentielle en 2017, Macron, le premier président français né après la période coloniale, a reconnu que la colonisation de l'Algérie était un crime contre l'humanité, allant plus loin que tous ses prédécesseurs. En 2018, il a également admis que la France avait mis en place un système qui a facilité la torture pendant la guerre d'Algérie. Cependant, il a refusé de s'excuser pour les atrocités commises par les troupes françaises lors de la colonisation de l'Algérie. La France a mené plus de 50 interventions militaires en Afrique depuis 1960, lorsque bon nombre de ses anciennes colonies ont obtenu leur indépendance nominale.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Presse TV. Je vous présente nos deux invités qui sont en direct par Skype avec nous, avec ce débat. Il s'agit d'Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. Également, Elia Tem, juriste international, qui est également avec nous depuis Paris. Bonjour à vous deux, et merci d'avoir accepté l'invitation de participer à cette émission. Maître, si vous permettez, je commence avec Madame Midani, donc les dames d'abord, si vous voulez bien. Madame Midani, merci d'être avec nous. Alors, selon Emmanuel Macron, il n'y a pas des pardons à faire vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis d'une décennie, plus d'une décennie de colonisation, et que voilà, il y a des sujets plus importants entre les deux pays. Mais à votre avis d'abord, comment pourrait-on interpréter cette prise de position de Macron? Et comme le dit en fait Macron, est-ce qu'il n'y a pas de pardon à faire? Est-ce qu'il y a des sujets plus importants entre les deux pays? Est-ce que la colonisation française, elle est terminée?
Bonjour à vous, merci de votre invitation. Bonjour à Maître Elie Atem, que je salue aussi. Je vous souhaite une année pleine d'espoir et pleine de victoire.
Merci infiniment.
À nous, à vous et à tous les peuples du monde qui luttent pour la justice, en fait. Et merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je crois que c'est le summum de l'arrogance, hein, mm-hmm. on peut dire, qu'un responsable d'un pays qui a effectué non seulement des pillages, mais aussi des massacres, non seulement en Algérie, mais dans tous les pays de l'Afrique, hein, y compris en Syrie aussi, et qui ont provoqué effectivement le sous-développement, l'exil, le transfert d'un tas de peuples, hein, et de composantes de ces peuples, bien sûr, ce n'est pas étonnant qu'ils soient dans cette arrogance. Et oui. Tout cela pour dire que de toute façon, ce n'est pas terminé, en tout cas dans leur tête. Ce qui est terminé, ça a été mis, ce sont des barrières qui ont été mises par la lutte des peuples, hein, par la résistance, par la lutte du peuple algérien qui a donné 1,5 million de martyrs pour l'indépendance, sans parler de tous les martyrs qui ont été exécutés, qui ont été objets d'expérimentations nucléaires dans le Sahara algérien, qui ont été aussi dépêchés aux côtés de l'armée française pour combattre les nazis, pour qu'au retour, ils retrouvent leur famille assassinée. Je fais allusion à l'assassinat de Sétif, hein, donc, qui est arrivé le lendemain de l'indépendance de Paris, hein, de la libération de Paris en mai 1945. Donc tout ceci, c'est une abjection totale et ce ne sont que des petits faits de la colonisation. Donc en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, disent, il n'a pas à s'excuser. En fait, les excuses ne sont pas suffisantes, mais il faudrait qu'ils payent toute leur vie pour ce qu'ils ont fait subir à ces peuples, hein, d'une part. Mais c'est pas Macron, c'est l'ensemble de l'État colonial français. Et c'est Macron ou son successeur ou son prédécesseur, ils sont tous responsables. Donc en fait, hein, la réalité est là. C'est à nous, peuple du monde, de mettre le holà et de nous faire respecter. On ne s'attend pas du tout à un respect qui vient de ces gens-là. Ça, c'est clair. Il faut imposer le respect. Il faut imposer nos conditions. Et ceci vient par un rapport de force, tout simplement, entre les peuples et ces tyrans.
Merci pour vos explications, Madame Idenia. Restez avec nous, s'il vous plaît. Alors, Maître Atem, pour vous, quelle est l'interprétation qu'on peut mettre sur les déclarations de Macron? Mais la question la plus importante est de savoir, est-ce que la France a-t-elle fini avec la colonisation? Est-ce que la France n'est-elle pas en train de commencer une néocolonisation à travers non seulement l'Algérie, mais beaucoup d'autres pays africains notamment?
Bonjour et merci de votre invitation.
Merci à vous.
Un très grand bonjour également à Madame Midani. Et je réitère également mes voeux. Dans mes propos, je serai beaucoup plus objectif et je ne me ferai pas guider simplement par cette propagande qui est faite sur ces relations entre la France et l'Algérie. Et si vous me permettez, tout d'abord, beaucoup de remarques à faire. Premièrement, il ne faut pas confondre la France avec la République. Et si vous voyez bien dans l'histoire de France, cet esprit d'interventionniste et je dirais de colonisation n'a commencé que depuis la Révolution française et depuis Napoléon, Bonaparte surtout. Et avant cela, nous ne voyons pas la France comme l'Angleterre ou bien comme l'Espagne ou le Portugal ou bien voir aussi l'Italie avec une idée expansionniste et impérialiste. Ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, la République en France, si elle va commencer à demander pardon, il faut qu'elle commence déjà à demander pardon aux Français, aux Vendéens qu'elle a massacrés. Il y a eu des massacres et des génocides. Donc, si cette porte va s'ouvrir et cette page va s'ouvrir, il faut que la République demande pardon à ces génocidaires. Il faut qu'elle demande également pardon à tous ceux qu'elle a exécutés, des centaines, des milliers, voire des millions lors de la Révolution française, en les guillotinant. Donc ça, c'est deuxième remarque. Troisième remarque, il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez s'il y a une colonisation, eh bien oui, en effet, aujourd'hui, il y a certaines régions en France qui se sentent colonisées par la République, et j'insiste, pas par la France, mais par la République. Et je parle en particulier de la Savoie ou bien de Nice, qui sont devenues françaises, qui ont été intégrées à la République en 1860. Donc, bien après l'Algérie, l'Algérie était devenue française en 1830, mais il faut aussi rappeler le contexte de ce qui s'est passé en 1830. Comme vous le savez, c'était bien après la Révolution française, bien après ce sentiment impérialiste et je dirais d'occupation, d'intervention, de colonisation qui a été hérité des révolutionnaires français. Alors, l'Algérie, à cette époque, n'existait pas en tant qu'État tel que nous le voyons aujourd'hui. C'était des émirats sur lesquels il y avait, après, surtout depuis l'arrivée donc, des Ottomans, il y avait des Deys, il y avait des Beys. Alger, qui est bon, aujourd'hui c'est la capitale, mais à l'époque c'était un émirat. Donc il y avait des rivalités entre ces différents émirats. Je vous donne un exemple, des massacres entre Bijaya, Tlemcen, Constantine et d'autres. Il y a eu des atrocités qui ont été commises, donc d'une part par les Ottomans, mais d'autre part entre ces émirats eux-mêmes. Aujourd'hui, si vous discutez par exemple avec les Kabyles en Algérie, ils n'accusent pas la France, mais ils accusent et ils demandent en fait aux autorités locales actuelles en Algérie de demander pardon contre les exécutions qui sont faites à l'encontre donc des Kabyles. La situation donc, oui. La réalité sur le terrain est beaucoup plus compliquée que ce que l'histoire contemporaine le dit, etc. Et quand on parle, par exemple, de ce qui s'est passé, la guerre civile entre l'Algérie et la France, il faut rappeler deux choses. Premièrement, ce chiffre qu'on donne, 500 000 ou 1,5 million. Hier, j'avais un débat, d'ailleurs, sur une chaîne arabe avec un responsable algérien. Il n'a pas du tout donné le 1,5 million. Il a donné 6 millions. Donc, si vous voulez, cela me rappelle ce chiffre rond de 1,5 million, de 6 millions, avec ce qui s'est passé avec les communautés juives qui veulent absolument donner un chiffre rond, non pas 5,999,999 juifs, mais 6 millions lors de la Seconde Guerre mondiale pour faire une sorte, je dirais, d'un fonds de commerce pour justifier la création d'État d'Israël, etc. Or là, aujourd'hui, c'est un peu l'imitation, c'est même pas 1,499,000, mais 1,5 million pour justifier quand même, cette propagande de la part du pouvoir. Deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y avait des Algériens qui voulait que l'Algérie reste française. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la France a donné des infrastructures. Elle a permis à ces différents émirats de se regrouper dans un État et nous avons assisté à la formation de l'État algérien. Cela ne s'est pas passé comme ça, parce que je ne justifie pas quand même les interventions, mais quand même, il faut rappeler une chose. Oui. Il y a eu des guerres entre ces différents émirats, entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie, avec le Danemark, d'autre part avec l'Espagne, d'autre part avec des autres pays donc de la Méditerranée. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des attaques qui étaient faites soit par les populations donc, de cette région, soit peut-être par l'armée, par des soldats des ottomans, par les Turcs qui occupaient et colonisaient en fait cette étendue territoriale, non seulement l'Algérie d'aujourd'hui, mais également toute la région de ce qu'on appelle le Maghreb arabe. Donc une atteinte à la sécurité au sein de la Méditerranée, ce qui a permis aux différentes puissances donc, d'intervenir. y compris la France en 1830 avec le roi Charles X, avec la Restauration. Donc il y a eu certainement une période de restauration, mais le roi Charles X, pour essayer de camoufler et pour attirer, si vous voulez, l'opinion publique vers lui à cette époque-là, mmh. il a fait cette expédition qui, d'une part, pour se rapprocher de l'opinion publique républicaine en France, d'autre part, pour qu'on oublie, pour donner une certaine assise à son pouvoir, mais troisièmement, pour lutter aussi et protéger la sécurité de la France qui a été menacée par là. Je vous donne l'exemple actuel.
Oui.
La Russie qui est intervenue d'ailleurs en Ukraine l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème réel pour sa sécurité. Elle est intervenue en Ukraine. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui la Russie commet des exactions, etc. parce que son intérêt est de protéger. Mais il ne faut pas oublier cet élément assez important aussi. Ce n'est pas que du négatif. Il y a du positif. La France a donné toute une, je dirais, infrastructure, des institutions donc à l'Algérie. Et preuve en est, aujourd'hui, si vous posez la question à la plupart, aux Algériens, je ne parle pas simplement des Kabyles, mais des Algériens en général, parce qu'il y a les Kabyles, il y a les Arabes. Les Kabyles sont à 100%, veulent retourner donc, en France. Mais les Kabyles en particulier, si vous faites une sorte, je dirais, de référendum, vous aurez une réponse à 90% qu'ils veulent venir en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sentiment, cette appartenance à la culture, à la civilisation française. Ils rêvent tous de la Tour Eiffel, non pas de l'Europe. Si vous leur dites, vous voulez venir en Europe ou en Angleterre, entre l'Angleterre et la France, même si vous allez toucher le double d'un salaire en Angleterre, vous dites non, c'est la France, c'est la Tour Eiffel. Donc, il y a ce sentiment d'appartenance culturelle et civilisationnelle avec la France d'une part, et puis d'autre part, il y a également un mécontentement de la situation actuelle et du manque, si vous voulez, de capacité oui. Du pouvoir actuel de pouvoir régler les différents problèmes. Mmh. Et je pense que également, peut-être pourquoi simplement la France doit demander pardon, peut-être le pouvoir actuel devra également demander pardon à la population actuelle en Algérie.
Exactement. Merci Maître pour vos explications. Reste en ligne à Madame Idani en ce qui concerne cette politique de colonisation française. Alors, surtout durant l'année passée, on a vu la France désespérée, déboussolée, surtout en Afrique, après son expulsion du Mali. Maintenant, le torchon brûle là, entre la France et le Burkina Faso. On a le rapprochement des pays stratégiques africains avec surtout l'axe Algérie, Russie, Iran, Chine. Donc, il semblerait que cette politique de colonisation ne marche plus, en fait, non seulement en Afrique, mais également aussi au Moyen-Orient, avec l'exemple aussi de l'Iran, de la Syrie, de l'Irak, les pays stratégiques. Donc, quelle est votre analyse à ce sujet ?
Alors, je voudrais quand même signaler, si vous voulez, que toutes les présences françaises
oui.
en dehors de ces frontières sont complètement illégales et sont complètement contraires à la charte de l'ONU. Ça, c'est un premier point.
Oui.
Deuxième point, la France continue à fomenter des troubles là où elle peut, là où elle a les moyens pour reproduire quand même son empire colonial. N'oublions pas qu'au XIXe siècle, la France et l'Angleterre qui se partageaient quand même la domination du monde, hein.
Mmh.
Donc avec les États-Unis qui sont venus après. Donc en fait, c'est la nostalgie de cet empire colonial continue à exister dans la tête des dirigeants, dans la tête de la classe politique française, malheureusement. À un moment donné, il y a eu une véritable conscience au niveau du peuple, avec la présence d'un parti communiste qui était beaucoup plus engagé aux côtés des peuples dominés. Mais bien sûr, tout ceci a été éliminé au profit d'un parti qui se dit socialiste, mais qui n'est pas moins colonial que les partis au pouvoir, les partis de droite, etc. Donc il y a une réelle volonté de reconstruire Pourquoi ? D'abord parce que la France, une fois défaite de toutes ses colonies, elle n'a plus aucune, une ressource qui lui fait vivre, puisqu'elle vivait sur le pillage des autres pays. Et donc, suite aux différents mouvements d'indépendance dans les différents pays africains, algériens, les pays du Maghreb, la Syrie, etc., tous ces pays qui étaient dominés par la France, bon, suite à leur indépendance, en fait, qui était peut-être une indépendance nominative, mais qui était déjà un premier palier dans l'indépendance, bon, la France s'est trouvée en difficulté économique et donc continue à caresser le désir de reprendre le pillage systématique des ressources, hein, sans payer le prix d'ailleurs, parce que sans payer même au peuple le prix qu'il faut pour leurs ressources. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a vu. Ils étaient la tête de pont de l'agression contre la Syrie en dépêchant des terroristes et en les armant, en participant aussi à leur direction. Au Mali, ils étaient aussi non seulement les premiers à provoquer des coups d'État et des troubles, mais aussi à dépêcher des terroristes pour après avoir le rôle de dire on vient là vous aider pour chasser les terroristes. Et c'est le cas dans différents pays d'Afrique, malheureusement, le Burkina Faso, la Somalie et le Soudan aussi, disons-le, etc., etc. Donc en fait, cette situation, malheureusement, et puis pendant ce temps, l'évolution des médias et des mensonges médiatiques ont aussi endormi les peuples, complètement. Le peuple français, qui était effectivement par français et italiens, parmi les peuples les plus conscients, effectivement, et qui étaient opposés à ce pillage des pays du tiers-monde, à cette domination, etc. C'était en grande partie des partis anti-impérialistes, je parle des partis communistes de ces pays-là. Ils ont été complètement sabotés et en même temps, l'évolution des médias avec des médias mensonges, etc., ils ont réussi à pouvoir orienter l'opinion de leur peuple en leur racontant les mensonges qu'ils veulent et en cachant. Au début, avant, ils cachaient les vérités à leur peuple. Et quand les peuples apprenaient les choses, ils se mettaient aux côtés des peuples des pays dominés. Maintenant, ils n'ont même plus peur de ça, puisqu'ils arrivent à manipuler tellement la pensée des peuples européens ou du peuple français qu'ils n'ont même plus peur de dire les vérités dans toute leur abjection. Donc, on fait des crimes, et oui, et alors, c'est comme ça. On n'a pas à s'excuser, ok, c'est ça, et on continuera à la limite, etc.
Oui.
Donc, cette arrogance, hein, elle vient du fait qu'ils sont très sûrs d'eux,
oui.
et auprès de leur peuple, et ils pensent que réellement, ils ont réussi à faire penser à leur peuple, hein, ou orienter la pensée de leur peuple, hein, comme ils le veulent. Par contre, fort heureusement, les peuples du tiers-monde et de tous ces pays qui ont vu d'ailleurs par la pratique, en fait, cette aide coloniale, en fait, qu'ils appelaient coopération technique pour le développement, coopération avec l'aide de la Banque mondiale et du FMI, etc. Bon, ils découvrent que plus ils avancent, plus ils perdent de leur indépendance et plus ils se retrouvent devant des problèmes de famine, des problèmes d'insuffisance dans leur pays et même de destruction de leur économie.
Exactement.
Donc en fait, ce sursaut est très important. Et là, effectivement, le Burkina Faso a viré les Français, le Mali a viré l'armée française. Et ça, c'est une excellente initiative. Ce n'est qu'un début. L'Algérie s'est reprise en main. Rappelons quand même que dans les années 90, l'agression terroriste pour faire plier et pour faire, plier l'État algérien était quand même de grande taille. Heureusement, l'Algérie a résisté à ce terrorisme et l'a vaincu et a repris en main son propre pays, son propre destin. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, je peux dire, pour nous, tous les pays du tiers-monde, tous les peuples du tiers-monde, nous sommes devant la nécessité de continuer notre lutte pour imposer notre respect d'un côté et pour décrocher une indépendance économique et qui est en fait, qui ne se fait qu'en comptant sur nos propres forces et sur les forces de nos amis qui nous traitent d'égal en égal. Et je peux dire qu'aujourd'hui, avec l'Ukraine, avec la défaite du monopolisme mondial, en fait, la défaite du monopole américain, aussi bien en Syrie, en Ukraine, en Irak, j'espère bientôt, et en Iran, disons-le,
oui.
Le fait que leur plan échoue, ça donne une grande force et un grand espoir à tous nos peuples, aussi avec cet avenir d'un monde multipolaire où tous les pays se traitent avec respect d'égal à égal et sur la base d'une monnaie qui est aussi affranchie du dollar puisque les Américains ont imposé leur diktat par le fait que le dollar est devenu une monnaie de référence.
Merci.
Pour les échanges entre tous les pays du monde. Or, maintenant, plus il y a de pays du monde qui s'affranchissent du dollar et qui traitent ensemble par le troc ou par la monnaie locale,
merci beaucoup.
Ça va dans le sens de leur indépendance et ça va dans le sens de ce changement du monde.
Merci infiniment. Je vous remercie, Maître Eliatem, Aïssar Midani, d'avoir été avec nous pour ce débat. Nous avions besoin de beaucoup plus de temps pour avoir vos analyses complètes, mais merci quand même pour votre présence. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Vous pourrez également revoir les émissions, les informations sur notre site french.presstv.ir. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt et au revoir.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur cette nouvelle édition de l'Afrique économie, une émission durant laquelle nous allons évoquer ensemble les plus importantes évolutions économiques du continent africain durant la semaine passée. Restez avec nous. Abritant la plus grande population africaine, sans accès à l'électricité, le Nigeria doit miser davantage sur les énergies renouvelables pour à la fois se conformer aux exigences climatiques et garantir une offre suffisante. Le dernier rapport de l'IRENA, qui traite des ambitions et la feuille de route du Nigeria en matière d'énergie renouvelable, indique que l'investissement dans ce secteur est rentable. Le développement du secteur permettrait au Nigeria de se rapprocher de ses ambitions en termes de climat et d'accès à l'électricité propre. En effet, selon celui-ci, près de 60% de la demande énergétique du pays en 2050 peut être satisfaite par des sources d'énergie renouvelable, ce qui permettrait d'économiser dans le même temps 40% des besoins en gaz naturel et 65% des besoins en pétrole. En utilisant ces énergies renouvelables abondantes et inexploitées, le Nigeria peut fournir une énergie durable à tous ses citoyens de manière rentable. Le Nigeria a une occasion unique de développer un système énergétique durable basé sur les énergies renouvelables qui soutiennent la reprise et le développement socio-économique tout en relevant les défis climatiques et en assurant la sécurité énergétique, a déclaré Francesco La Camera, directeur général de l'IRENA. Toujours selon le rapport, la capacité mondiale renouvelable installée, y compris celle générée par les systèmes en réseau, passera de 33 gigawatts en 2015 à environ 56 gigawatts d'ici 2030 et 136 gigawatts d'ici 2050, une expansion qui sera principalement due à la réduction des coûts des technologies. Depuis 14 ans, l'Afrique du Sud connaît une hausse constante du chômage. Des initiatives sont mises en œuvre afin d'en faire baisser le taux. Toutefois, les autorités admettent que le pays a encore un long chemin à parcourir et que davantage de travail doit être fait pour relever ce défi. 1,5 million d'emplois ont été créés en Afrique du Sud au cours de l'année 2022, selon la présidence sud-africaine. L'information émane de la déclaration hebdomadaire du porte-parole présidentiel aux médias publiés jeudi 12 janvier. Cette performance est le résultat, selon les autorités, des réformes structurelles mises en œuvre dans le pays, principalement le programme présidentiel de stimulation de l'emploi. L'objectif de ces réformes est d'augmenter la croissance, attirer les investissements et créer davantage d'emplois. La présidence estime que son programme de stimulation de l'emploi a touché plus d'un million de participants. Rien qu'au troisième trimestre de l'année, le taux d'emploi total a enregistré une hausse de 10,4%, révèle la note d'information. Ces réformes gouvernementales ont touché plusieurs secteurs, tels que l'énergie, les technologies de l'information, les ports, les chemins de fer et l'eau, entre autres. Elles visent à améliorer l'environnement opérationnel des entreprises et renforcer la compétitivité de l'Afrique du Sud en tant que destination d'investissement. Outre ces réformes, les autorités ont lancé un programme de financement mixte de 2 milliards de dollars. Ce programme piloté par le ministère de l'Agriculture permet de répondre aux nombreux défis auxquels sont confrontés les nouveaux agriculteurs. L'initiative présidentielle de stimulation de l'emploi, lancée dans le cadre du plan de relance après le choc COVID-19, permet aux agriculteurs de subsistance et aux petits exploitants d'acheter des intrants dont ils ont besoin. Cette intervention a contribué à améliorer la production alimentaire des ménages, indique la note d'information. En 2022, le marché des matières premières agricoles a enregistré une forte, pour l'essentiel, la guerre en Ukraine, ainsi que des implications sur l'économie mondiale ont pesé sur l'offre et la demande. Certaines denrées ont été à l'abri des turbulences. Le cacao et le sucre ont été les grands gagnants durant l'année écoulée. En dépit d'un marché agricole agité, ces deux matières premières ont affiché des gains sur leurs différentes places de cotation. Dans les détails, les prix de l'or brun ont gagné plus de 21% à Londres et ont terminé autour de 2062 livres la tonne. À New York, les cours ont gagné 3% avec une clôture le 30 décembre dernier à 2600 dollars la tonne. Dans l'ensemble, le cacao s'en sort relativement bien malgré une demande sous pression en raison des incertitudes économiques. Les cours de la tonne de la matière première ont en effet atteint le 1er juillet dernier leur plus bas niveau depuis un an à New York à 2304 dollars et leur plus bas à Londres depuis 4 mois. Pénalisé par la faiblesse de la demande et les perspectives d'une abondante récolte en Afrique de l'Ouest. Dans le cas du sucre, les prix ont affiché des gains soutenus par une offre restreinte, alors que la demande est restée robuste. Le sucre brut a gagné 6,1% d'une année sur l'autre, alors que le sucre blanc a gagné 11,5% en 2022. Au total, le sucre blanc aura gagné 54,8% sur les 4 dernières années, soit autant que le sucre brut. Il faut noter que les cours du sucre brut se sont enlevés le 23 décembre dernier, atteignant à New York 21,18 cents la livre, soit leur plus haut depuis février 2017. Globalement, le sucre et le cacao ont été des exceptions sur un marché agricole où la majorité des spéculations a été orientée à la baisse. la transformation numérique a accéléré les besoins des entreprises et des populations en services télécom de qualité, le gouvernement mauritanien veut encourager les opérateurs télécoms à améliorer la qualité de leurs services pour mieux répondre à la demande croissante. Le ministère mauritanien de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a lancé, jeudi 12 janvier, des consultations sur les infrastructures de fibre optique. Ces assises qui ont vu la participation des opérateurs de télécommunications visent notamment à améliorer la qualité des services télécoms fournis à la population. Selon les médias locaux, ces consultations interviennent alors que se multiplient les critiques sur la qualité des services fournis par les opérateurs de télécommunications dans le pays. Selon le gouvernement, la mauvaise qualité des services télécoms est essentiellement due à la faiblesse des infrastructures et l'absence de coordination entre les différents opérateurs. Cette initiative du gouvernement intervient environ un mois après que l'autorité de régulation a publié les résultats d'une mission de contrôle de la qualité des services offerts par les opérateurs de communication électronique effectuée du 1er au 30 novembre 2022. Le régulateur a ensuite procédé à la notification des griffes aux opérateurs Moritel SA, Matelsa et Chinguitel SA, les informant de son intention d'appliquer des sanctions en raison des manquements constatés et leur donnant la possibilité de consulter le dossier afin de présenter les observations éventuelles dans un délai de 10 jours. En 2022, Nouakchott avait déjà demandé aux opérateurs de respecter les obligations contenues dans leur cahier des charges en ce qui concerne...